Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Maintenant, je reconnais véritablement que Dieu a envoyé son ange et qu'il m'a soustrait à la main d'Hérode et à toute l'attente du peuple juif. Cette phrase forme l'introïte de la messe. Elle est tirée de l'Épître, qui elle-même est tirée des Actes des Apôtres. Comme tous les passages de l'Écriture, cette épître est susceptible d'un double sens, le sens littéral et le sens spirituel. Au sens littéral, Saint Pierre, le premier pape, a réellement été emprisonné sous Hérode Agrippa en l'an 44 et il a été délivré miraculeusement par un ange. Au sens spirituel, ces faits sont l'image d'une autre réalité qui lui est semblable. Parfois, le sens spirituel fait partie de la révélation. Il nous est révélé. C'est le cas de l'histoire de Sarah et d'Agar que nous avons le dimanche de Létharé pendant le carême. Saint Paul lui-même dit que cette histoire a un sens allégorique. Sarah, la femme libre, signifie l'Église et Agar, l'esclave, signifie la synagogue. Mais parfois, le sens spirituel n'est pas donné par la tradition. C'est nous qui voyons, dans tel passage de l'Écriture, une signification symbolique. Et le bon Dieu le veut. Ça fait partie de l'aide que la Sainte Écriture peut nous apporter pour nous donner des lumières, même si ce n'est pas quelque chose qui est révélé par l'Église. C'est ce qu'on appelle le sens accommodatis. Ce matin, nous allons lire l'épître de ce dimanche, de ce 29 juin, dans un sens accommodatis. Cette interprétation n'aura donc pas plus d'autorité que la vraisemblance et la cohérence qui s'en dégagent. Cependant, les conclusions que nous en tirerons seront valables, même si l'on n'adhère pas à cette interprétation. En ce temps-là, le roi Hérode porta la main sur quelques-uns de l'Église pour les tourmenter. Hérode signifie le pouvoir politique hostile à l'Église. Le pouvoir politique a toujours été plus ou moins hostile à l'Église, mais il l'est surtout depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis qu'il est contrôlé par la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes. Hérode fit mourir par le glaive Jacques, frère de Jean. Pierre, Jacques et Jean figurent traditionnellement la foi, l'espérance et la charité. Hérode, c'est-à-dire le pouvoir politique, met à mort Jacques, l'espérance. Quand la persécution devient si violente que les chrétiens perdent espoir d'en sortir. N'est-ce pas un peu le cas aujourd'hui, où l'on ne voit aucune issue à vue humaine à la terrible crise que subissent l'Église et la société civile? Cependant, si tout espoir humain semble perdu, il ne faut jamais désespérer, comme le montre la suite de l'histoire. Et voyant que cela plaisait aux Juifs, Hérode fit aussi prendre Pierre. Quand il l'eut pris, il le mit en prison, le confiant à la garde de 4 escouades de 4 soldats. Hérode, le pouvoir politique, persécute l'Église pour plaire à la franc-maçonnerie et aux sociétés secrètes. Pierre, avons-nous dit, symbolise la foi. Hérode met Pierre en prison quand il empêche la prédication de la foi. Société laïque. Pierre, c'est aussi le pape. Hérode le fait mettre en prison pour faire plaisir aux Juifs. Quand le pouvoir politique, sous l'influence de la franc-maçonnerie, arrive à prendre un certain contrôle sur la papauté. Cependant, Pierre est toujours vivant. et il va bientôt être délivré miraculeusement. Voyons cela. Ainsi Pierre était gardé en prison. Mais l'Église faisait à Dieu sans interruption des prières pour lui. D'abord, pour que Pierre, le pape, soit délivré, il faut que l'Église fasse à Dieu des prières sans interruption. En l'an 44, quand l'histoire eut lieu, la Sainte Vierge était vivante. C'est certainement elle qui animait ses prières, et c'est elle qui a obtenu la délivrance de Pierre. Or, la nuit même d'avant le jour où Hérode devait le produire, c'est-à-dire le faire mettre à mort, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Il est moins cinq, comme on dit. Pierre doit être mis à mort le lendemain. Il dort entre deux soldats. Il est dans un état d'inertie. Il est attaché à deux soldats. Il est l'objet d'une surveillance rapprochée. La situation semble désespérée. Mais Dieu intervient, et pour lui, c'est un jeu de le délivrer. Et voilà qu'un ange du Seigneur se présenta, et une lumière brilla dans la prison. L'ange commence par illuminer Pierre. Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, parle longuement de l'illumination des anges. Les anges supérieurs illuminent les anges inférieurs en leur faisant connaître des vérités surnaturelles. Les anges illuminent aussi les hommes en les enseignant et en fortifiant leur intelligence. La première chose à souhaiter pour sortir de l'état lamentable dans lequel se trouve la Sainte Église de Dieu, c'est que le pape soit illuminé par Dieu ou par un ange, pour être rempli des lumières de la révélation. Alors l'ange, frappant Pierre au côté, le réveilla, disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange ne se contente pas d'illuminer Pierre. Il le fait sortir de son sommeil, de sa léthargie. Puis il fait tomber les chaînes de ses mains. Voici que Pierre peut agir. Cependant, il n'est pas encore complètement libre. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Et il fit ainsi. Pierre doit mettre sa ceinture et ses sandales. Les orientaux portent de longs vêtements qu'ils doivent remonter avec leur ceinture quand ils ont un travail à effectuer. Pierre doit mettre sa ceinture car il a un rude travail à faire, celui de prêcher la vérité. Il doit aussi mettre ses sandales, qui signifient le zèle pour l'Évangile. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit que le chrétien doit revêtir une armure spirituelle, et notamment, il doit avoir les reins saints de la vérité et les pieds chaussés de zèle pour l'Évangile de la paix. C'est le même symbolisme. Et l'ange continue. « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Le large manteau des orientaux figure la charité, comme la chasuble que le prêtre porte pour célébrer la messe. Ça a été rappelé à la cérémonie d'ordination vendredi dernier. Une fois saint de la vérité, chaussé de zèle pour l'Évangile, enveloppé de charité, Pierre doit suivre l'ange, c'est-à-dire lui obéir. Alors l'ange le fait sortir de sa cellule, passer devant les deux autres gardes qui ne virent rien et sortir de la prison. Ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même à eux. Et sortant, ils avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Pierre, le pape, sortira de sa prison quand il quittera l'église conciliaire. Alors il se trouvera dans une rue droite qui conduit au ciel. Remarquons que la prison se trouve dans la ville. Le fait d'être dans l'église conciliaire ne signifie pas que Pierre est hors de l'église catholique, mais simplement qu'il se trouve enfermé. Il n'est pas libre. Comme nous le disions au début, cette lecture de l'Épître n'est qu'une interprétation accommodatis. Elle n'a d'autre autorité que la vraisemblance et la cohérence qui s'en dégagent. Cependant, il reste à tirer quelques conclusions qui seront valables, quoi qu'on puisse penser de cette interprétation. Première conclusion. Il ne faut pas confondre l'Église conciliaire et l'Église catholique. Monseigneur Lefebvre faisait bien cette distinction dans sa fameuse déclaration du 21 novembre 1974. On en a fêté le 50e anniversaire il y a quelques mois. Elle commence ainsi. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Dans celle de la Terre, 85, été 2013, sous le titre « Y a-t-il une église conciliaire ?», Monseigneur Tissier de Malraix, c'était son dernier article dans celle de la Terre, décrivait longuement ces deux églises. Il explique notamment que ce n'est pas parce qu'on est dans l'église conciliaire que l'on n'est plus dans l'église catholique, aussitôt du moins. Cependant, comme Saint-Pierre dans sa prison, on est plus ou moins lié par les nouveautés conciliaires, le nouveau catéchisme, la nouvelle messe, etc., qui menacent à la longue de faire perdre la foi catholique, de procurer la mort spirituelle. Deuxième conclusion. Il ne suffit pas de se tenir en dehors de l'Église conciliaire. Il faut encore beaucoup prier. Oratio tem fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum. L'Église faisait à Dieu sans interruption des prières pour lui. Il faut donc beaucoup prier, prier sans cesse et prier avec la Sainte Vierge. C'est elle qui sauvera l'Église du péril dans lequel elle se trouve. Enfin, troisième conclusion. Il faut que Dieu intervienne en envoyant son ange ou autrement. Nous devons attendre patiemment l'heure de Dieu en priant et en gardant la tradition, chacun à notre niveau. Chacun allant jusqu'au bout de la grâce qui lui est confiée. Les enfants, en étant de bons enfants. Les parents, en pratiquant leur devoir d'État. Les prêtres et les religieux, en étant fidèles à leurs règles, et ainsi de suite. Les hommes d'armes batailleront, et Dieu donnera la victoire. Restons donc fidèles à l'Église catholique et à ses traditions. Prions beaucoup, notamment la Sainte Vierge Marie, et attendons patiemment l'heure de Dieu. Telle est la leçon que nous tirerons de cet épître. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.